Pas de questions sur le chapitre 6 que vous avez vu la dernière fois. Je vous rappelle. Hein. La cuidité chacun soit identique ou différent. Oui, la cuidité ou chacun. Que la cuidité et chaque être soit identique ou différent, c'est ce qu'il nous faut examiner, car c'est la chose utile à savoir pour notre enquête sur la substance. Chaque être en effet semble bien n'être rien d'autre que sa propre substance. Et l'on dit de la cuidité quelle est la substance de chaque être. Vous voyez, c'est très joli comme question. C'est de voir la différence et la distance qui existe entre Ousia et Do, Si, El, Elman. Ceci par rapport à la Rex.
Je reviens un petit peu précédemment. En fait, il semble qu'Aristote voulait montrer qu'il y a une différence entre l'Ousia et l'Aïdos. Il montre qu'il y a une différence entre l'Ousia et l'activité, l'Ousia et l'Ousia.
Exactement.
Alors, quel est le lien entre l'activité et l'Aïdos? Est-ce qu'on peut
dire... Le lien par là. Il est en face de Platon qui identifie les deux.
Est-ce qu'on peut dire...
J'ai oublié ça. Le premier philosophe de l'Ousia, c'est Platon. Il identifie forme et Ousia. Ah, c'est autre chose. Non, il faut regarder avant tout ça. Ça, c'est Platon. Et c'est très net qu'Aristote veut montrer la différence qui existe, la distance qui existe entre Ousia et Aïdos. C'est ça toute son idée. Et pour cela, il invente le phénomène. Parce que si vous regardez les prédicaments, dans les prédicaments, on ne peut pas identifier le point de vue de la substance et la forme.
D'une certaine manière, chaque catégorie a un tout yéménal, mais pas au sens propre.
Chaque catégorie a un tout yéménal, c'est évident, parce que chaque catégorie a une forme.
On peut dire que c'est les deux.
Non. Ah non, sûrement pas. Les catégories, c'est pas platonicien. C'est Aristote, dans le sens premier, fondamental. Platon n'aurait pas accepté les catégories. Parce que c'est déjà le toon, l'égétal, pour la cause. C'est ce qui est dit de façon multiple. Donc ça, c'est déjà contre l'uniformité de l'être chez Platon. Vous voyez ? Donc déjà, dans les catégories, il y a une différence entre la forme et l'ousia. Puisque dans les catégories, vous avez substance première, substance seconde, qualité. Vous voyez bien. Qualité, c'est la forme, au sens le plus fort. La relation, c'est une forme. Et ce n'est pas l'ousia, ce n'est pas la substance. Donc déjà dans les catégories, il y a une différence entre l'ousia et la forme. Mais dans les catégories, on a uniquement un ordre. C'est-à-dire que la qualité est quelque chose de second par rapport à la substance. Elle est dite de la substance. Et elle n'existe que par la substance. Donc il y a un ordre. Et on montre la priorité de la substance. Mais on ne dit pas ce qu'est la substance. Et on ne dit pas ce qu'est la forme comparativement à la substance. Et alors, pour pouvoir mieux comprendre la distance qui existe entre forme et substance, on prendra Totienenai. Et on montrera que le Totienenai, il existe au niveau de la qualité. Je peux me poser la question, qu'est-ce que c'est que la qualité? Et en me posant la question, qu'est-ce que c'est que la qualité? Je cherche la cuidité de la qualité. Qu'est-ce que c'est que la qualité? Comme je peux me poser la question, Totienenai de l'ousia. Qu'est-ce que c'est que l'ousia? Et je vois que l'ousia, elle est le Totienenai en premier lieu. Tandis que la qualité n'est pas le totienénal en premier lieu. Donc je retrouve un ordre différent et je vois que le totienénal peut exister à ces niveaux différents, mais que le totienénal C'est ce qui me permet de mieux saisir la distance qui existe entre la forme et l'illusion.
C'est des seuls objets de définition.
Oui, c'est
parce que c'était quelque chose qui était.
Parce que le Totsienenan est premier par rapport à l'illusion.
Oui. Or, quand vous dites que Pierre est ineffable, qu'il ne peut pas se définir.
Pierre, c'est la substance première.
Ah, c'est ça.
Tandis que la substance seconde. Okay. C'est terrible, c'est le même mot. On joue là-dessus. Ça, c'est le propre de l'analogie, si vous voulez. On emploie le même mot et on l'emploie de trois manières différentes. Donc, tout de suite, référence.
Et une seconde question, c'était à propos du katoto. Vous avez parlé d'un premier katoto et d'un deuxième katoto.
Il y a un troisième katoto et un quatrième katoto. Il y a quatre katoto.
Je voulais savoir, le premier katoto, c'est la définition. Enfin, je voulais savoir.
Le premier katoto, c'est le point de vue de la substance. Le second, c'est celui de la propriété. Le troisième, c'est celui de la solitude. C'est le quatrième de celui de l'opération. Le premier katoto, c'est celui de l'essence. On dit de l'essence, on ne peut pas vous dire ça. Et c'est celui du Totsienenan. Tout simplement, le Totsienenan pris lui-même. Qu'est-ce que c'est que cette réalité? Quelle est l'intelligence de cette réalité? C'est le premier katoto.
Est-ce qu'on peut dire que le deuxième katoto, c'est au niveau des accidents?
Oui, mais alors on ne dira pas des accidents, on dira de la propriété. Parce que la propriété, c'est l'accident, c'est ce qui vient s'ajouter nécessairement. Il y a un lien de nécessité. Les katotos nous donnent les lignes de nécessité. C'est ça que c'est dit en logique. Ce sont les lignes de nécessité. C'est très calé, ça. Parce qu'il fallait trouver où on peut, c'est toujours le souci, hein. Déjà de Platon, c'était le souci de Socrate, où on peut trouver la science. Pour qu'il y ait science, il faut qu'il y ait découverte d'une nécessité. Où découvrons-nous les liens de nécessité? Et là, on vous découvre quatre lignes de nécessité. Oui. La nécessité dans le point de vue du Totsienenan, la nécessité dans le point de vue de la propriété, la nécessité dans, on dirait, dans la subsistance, solitaire, c'est la subsistance, et puis le quatrième, c'est du côté de la finalité. Oui. Alors, on pourrait dire, vous voyez, que le premier et le second katoto font la science spéculative. Et le quatrième fonde toutes les connaissances, la philosophie pratique. S'il n'y avait pas un lien nécessité du côté de la finalité, il n'y aurait pas de philosophie pratique. Où trouver la nécessité dans l'opération? C'est du côté de la finalité. La loi morale.
Non. Troisième katoto, qu'est-ce qu'ils font? La subsistance.
Le troisième katoto, c'est la subsistance. C'est la substance, pratiquement, la substance qui subsiste. C'est l'être qui subsiste. Donc c'est l'être qui est capable de supporter les attributs différents. C'est celui qui subsiste. C'est la substance première, Pierre. Celui qui subsiste dans son autonomie.
Est-ce que ce troisième katoto n'est pas aussi nécessaire pour fonder la
philosophie spéculative? Oui, c'est pour qui mettre le jugement d'existence, fondamentalement.
Donc il faut.
Il est fondamental, mais les deux autres sont formels. Il est fondamental. Il est fondamental à toute la philosophie. Il faut une philosophie réaliste. Pour qu'il y ait une philosophie réaliste, il faut qu'il y ait des réalités qui ont une autonomie dans le monde.
Oui. Je ne vois pas bien comment vous dites que les deux premiers ou les trois premiers font de la philosophie spéculative, oui. Mais il ne faut pas les quatre de toute manière.
Oui, d'accord, mais c'est surtout en philosophie spéculative où c'est le quatrième
une orientation.
Pas explicité. C'est une question d'explicitation. Les quatre sont toujours présents. Parce que toute philosophie implique la recherche de quatre causes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en philosophie spéculative, le point de vue des causalités formelles, l'essence de la probabilité est avant tout explicite. Tandis qu'en éthique, le point de vue de la finalité. Tout de suite, on commence par le point de vue de la fin, le bien qu'elle fait. Mais c'est très vrai que les quatre sont toujours présents dans la connaissance philosophique et dans la connaissance scientifique de la manière dont
ça forme. Mais si l'être n'est intelligible uniquement que par l'acte, on est bien obligé d'avoir le quatrième aussi.
Oui. Mais, oui, en métaphysique, le point de vue de la substance est premier au point de vue d'intelligibilité. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Les écanciers, Saint Thomas se pose la question de savoir qu'est-ce qui est premier, l'être ou le bien. Alors il montre que l'être est premier dans l'ordre de l'intelligibilité et que le bien est premier dans l'ordre de la connaissance, de la pratique. Et c'est dans ce sens-là. Il y a les deux aspects, mais ils sont tous présents, évidemment, dans toute connaissance scientifique, toute connaissance philosophique. Il y a une mise en lumière très particulière du quatrième catoto dans la philosophie pratique.
Éthique. Quel est le lien entre les quatre autos et les quatre causes? Est-ce qu'il y a un parallèle?
Oui, il y a un lien. Il n'y a pas un lien total. Parce que vous voyez, si vous mettez quatre autos, vous prenez le point de vue d'essence, le lieu-dit au point de vue de tout qui est ménage, deuxièmement, le point de vue de propriété, troisièmement, le point de vue de subsistance, et quatrièmement, celui de l'opération. Quatrièmement, il est commandé par la cause finale. Ça, c'est sûr. Cause finale, c'est-à-dire la cause efficiente qui n'est parfaitement intelligible que par la cause finale. Toute opération n'est intelligible que par la cause finale. Ou ce qui va remplacer la cause finale, la cause exemplaire. Le point de vue de la subsistance fait appel au fondement. La causalité n'est pas impliquée. Ici, cause formelle. Oui. Alors, il y a un lien avec les diverses causalités. Ça, on ne peut pas nier. Il y a un lien avec les diverses causalités. On pourrait dire aussi ici, cause efficiente, peut-être. Peut-être comme source. Il vaut mieux dire que c'est le fondement. C'est plutôt le fondement.
Je pense du point de vue de la science, parce qu'on dit que les capitaux font de la science. Et aussi, Aristote dit que la science est une recherche par les causes.
Oui, c'est une recherche par les causes. Il n'y a pas connaissance scientifique sans la recherche des causes. Et la recherche des causes nous donne des liens de nécessité. Alors, vous voyez la question qui était, on l'avait vu la dernière fois, ça je ne vais pas le redire avec vous, je relisais simplement ça pour nous remettre dans la perspective, si vous voulez, que l'acuité chaque être, c'est intéressant, c'est bien comprendre, là, que l'acuité chaque être soit identique ou différente, c'est ce qu'il nous faut examiner, car c'est la chose utile à savoir pour notre enquête sur la substance. Chaque être, en effet,
merci, il y avait une brousse que je n'ai pas vu.
Chaque être, en effet, semble bien n'être rien d'autre que sa propre substance. L'être et la substance, bien. Ce par quoi chaque chose est, elle est par sa substance. C'est pour ça qu'il y a une espèce d'identité. Alors vous voyez bien la manière dont il dit chaque être en effet semble bien n'être rien d'autre, c'est l'aspect négatif, que la propre substance. Et l'on dit le végétal, et l'on dit de l'acuité, quelle est la substance de chaque être. C'est très joliment dit. Pour essayer de comprendre quelles sont les relations entre la réalité et l'ousia? Alors, dans la réalité et l'ousia, on dit, ben oui, c'est identique, c'est sûr. Pourquoi? Ben, c'est l'être. La substance première, c'est la réalité. Il y a une identification entre res et substance, selon un langage courant. Selon le langage des catégories, il est net. La réalité, c'est la substance. Pierre, c'est la réalité, c'est la substance première. Bon. Et le Totien Ménal, il est dit de la réalité, il est dit de la réalité de chaque être. On dit de l'acuité, quelle est la substance de chaque être. Substance seconde. voyez. Donc, si vous êtes attentif à ce petit passage, c'est Aristote qui se sert des prédicaments pour essayer de brouiller les cartes. Parce que selon les catégories, vous voyez bien, selon les catégories substance première, substance seconde, la substance seconde est substance. La substance première, c'est la réalité, substance seconde, c'est le totienenai. Alors, on confond les deux, on veut confondre les deux pour montrer tout simplement que non, la distinction que vous faites entre le totienenai et l'ousia, c'est tout à fait faux. Puisque vous voyez que selon les catégories, ben oui, les deux sont substances. Ça, ça montre très bien qu'Aristote a eu très nettement conscience qu'au livre Zeta, il n'était pas au niveau des catégories, puisqu'il se sert des catégories pour brouiller les cartes de sa recherche et montrer qu'il n'y a pas de distinction entre l'objet et l'autre. Oui, vous voyez bien ça. C'est intéressant parce que ça montre bien, c'est de comprendre le niveau différent des catégories et le niveau différent dans lequel nous nous plaçons quand on est dans le livre Zeta. Et j'insiste parce que de fait, selon la tradition scolastique, on a tout confondu. Alors à partir de là, on ne comprend plus rien du tout. Je vous ai déjà dit, si vous regardez un bon manuel scolastique thomiste, et que vous regardez qu'est-ce que c'est qu'une substance, on vous dit la substance, c'est le sujet. Alors, de fait, Aristote nous montre que diestinousia ne peut pas être sujet. Ainsi donc, lorsqu'il s'agit de choses qui se disent par accident, les choses qui se disent par accident, la qualité se dit par accident, il semble bien que l'acuité et la chose soient différentes. C'est évident que l'acuité de la qualité, et la qualité est dite de la substance première. Et donc, la substance première et la qualité sont deux choses différentes. Et l'acuité qui est dite de la qualité est une chose différente de la substance. Ainsi donc, lorsqu'il s'agit de choses qui se disent par accident, il semble bien que l'acuité et la chose soient différentes. Par exemple, homme blanc est différent de être homme blanc, de l'être homme blanc. Si en effet il y avait identité, il y aurait identité aussi de être homme et de être homme blanc. En effet, homme et homme blanc sont identiques comme on le prétend. Et donc aussi l'être homme blanc et l'être blanc et l'être homme. Mais il n'est pas nécessaire que toutes les choses par accident soient identiques, car ce n'est pas non plus de la même manière que les extrêmes sont identiques, mais peut-être semblerait-il du moins que les extrêmes soient identiques, ceux par accident, comme par exemple l'être blanc et l'être musicien, mais il semble que non. Alors, tout simplement, Aristote se sert ici de l'accident qui est attribué à la substance première, l'accident qui a une quidité, pour bien nous faire comprendre que je ne peux pas identifier la substance et la quidité. Alors, nous allons passer, si vous voulez, pour avancer, parce qu'il faut avancer un peu. Nous allons passer au chapitre 7e. On va d'une certaine manière maintenant quitter le point de vue de la quidité. La partie la plus difficile, hein, la plus difficile, c'est ce que nous avons vu du livre Zeta. La plus difficile, le point de vue pour nous, le point de vue précision, comprendre la différence entre le point de vue de l'ousia et le totienenai. Alors comprenez bien que Pour Aristote, l'ousia, la substance, signifie autre chose, si je prends le diesti de l'ousia, signifie autre chose que le toti elenai. La substance signifie un principe dans l'ordre de l'être. Le totienenai signifie l'intelligibilité première. Oui, bien. Or, l'intelligibilité n'est pas l'être. Et là, nous sommes d'accord avec Aristote et Kant. C'est assez amusant de voir que là, il y a un accord entre les deux. L'intelligibilité n'est pas l'être. Et le premier dans l'ordre de l'être n'est pas le premier, n'est pas identique avec le premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Mais cependant, nous devons dire immédiatement que la substance est bien la première intelligibilité. C'est l'intelligibilité dans sa réalisation la plus parfaite. Principe premier, vous voyez. Mais on pourrait dire, parce que tout ce qui est premier, principe. Si vous êtes premier au bout d'un moment, vous êtes principe. C'est tout simple, un principe. Hein? Très conventionnel. C'est l'ordre des processions. Vous serez premier, vous serez principe. Vous allez dire ça comme une cérémonie. Vous serez premier dans la procession, vous serez principe. Momentanément, pour la procession. Premier. Alors, premier dans l'ordre de l'intelligible, petit animal, s'exprime la primauté dans l'ordre de l'intelligible. Alors, maintenant, nous allons donc voir un autre aspect. Toujours la même recherche. Hein. L'ousia est-elle identique à l'eidos? Alors, la première recherche, c'est de montrer la distance qui existe entre le totienaina et l'ousia. Et de montrer que l'ousia fonde le totienainal premier. Mais le totienainal, vous le trouvez dans toutes les catégories. Vous pouvez chercher le totienainal de la relation, le totienainal de la passion, de l'action, du lieu et du temps. Donc, le totienainal existe à tous les niveaux des diverses catégories. Il existe donc primordialement d'une façon primordial, protos, c'est-à-dire de son première dans la substance. Mais il ne s'identifie pas avec la substance. Alors, chapitre 7. Parmi les choses qui sont en devenir, nous allons donc nous servir de la génésis, du devenir, pour essayer de mieux comprendre la distance qui existe entre la forme. Alors, c'est pour ça, c'est là où il y a dans les interprétations différentes d'Aristote. Aristote a dit, regardons d'abord le problème de la distance entre l'ousia et la forme d'une vision logikos. C'est l'expression que prend Aristote. Très difficile à traduire. Le logikos. Ayons une manière, alors on a dit d'une manière notionnelle, d'une manière intelligible, d'une manière critique, le logikos. Vous voyez, c'est traduit en latin logice. En latin, quand vous traduisez logikos, logikos, logice, vous dites tout de suite d'une manière logique. Alors, ce que nous avons fait, est-ce que c'est d'une manière logique? Non, ce n'est pas de la logique. C'est beaucoup plus de la critique. Et je crois que le logikos Aristote traduit assez bien le point de vue critique. On cherche dans l'ordre de l'intentionnalité, dans l'ordre de l'intelligibilité. Une réflexion critique, toute réflexion critique est au niveau de l'intelligibilité. Alors ici, on passe du point de vue de devenir. Aristote aurait dû nous dire, vous y cause. Maintenant, regardons le problème de façon vous y cause. Aristote emploie assez souvent cette opposition entre les deux. Le logikos et le phousikos. Bon, le logikos, traduisons, je crois, c'est ce qui correspond le mieux dans le langage moderne, de façon critique, c'est-à-dire de façon intelligible, en ne regardant pas le problème de la réalité, mais le problème de l'intelligibilité. En voyant que l'ousia a une compréhension et une extension plus grande que le totienaina. Ça, c'est bien le problème critique. Quelle est l'extension de l'ousia. Quelle est la compréhension de l'ousia? C'est le problème de la signification. C'est le problème des notions, si vous voulez, dans leur signification. C'est le problème des concepts. Je veux bien, je veux dire ça. Donc, considération logikos. Le concept substance, la notion substance, on dirait, si vous voulez, dans le langage de saint Thomas, la ratio substantiée. La ratio substantiée et la ratio quantitative. Vous êtes toujours une clarté extraordinaire. Alors, la ratio substantiée, la ratio quantitative. En grec, ça ne pourrait pas se dire. C'est curieux, ça. Ça, c'est juridique du latin. Il y a du bon. Il ne faut pas oublier trop, mais c'est bon. La ratio substantiée, la ratio quantitative. La ratio substantiée, c'est d'essayer de saisir compréhension et extension. Tout concept a une compréhension et une extension. Alors je saisis ce que je saisis de la substance. Quand je saisis la substance, j'ai un certain concept de la substance, la ratio de la substance. Et là, extension, compréhension, extension. Et je peux le faire du côté de la quantité. Et je vois que la ratio substantiée contient la ratio quantitative. Tandis que je ne peux pas dire que la ratio quantitative contient la ratio substantiée. Et c'est là où je peux voir la distance qui existe entre les deux. Et ça, c'est logikos. Maintenant, nous allons mettre phousikos. C'est comme ça que je ponctue. Saint Thomas, quand il commence dans sa métaphysique, Aristote ne ponctue pas du tout comme ça. Alors, je crois que notre souci par rapport à Aristote n'est pas du tout le même que Saint Thomas par rapport à Aristote. Saint Thomas commente Aristote avec un souci de théologie. Il prend son bien dans Aristote. Ce qui l'intéresse. Il ne cherche pas à voir ce qu'Aristote a pensé. Oui. Nous, nous essayons de redécouvrir la pensée philosophique d'Aristote. Saint Thomas, lui, utilise en théologie. Et ça, je crois que c'est très important. Ça fait deux regards très très différents. Et c'est vrai, quand vous lisez le commentaire de saint Thomas sur le livre des États, c'est très intéressant. C'est pas traduit, mais vous n'avez qu'à faire une traduction. Non, c'est un excellent exercice de latin de lire le commentaire de saint Thomas sur le livre des États. Eh bien, on voit très bien, c'est assez décevant. Si on veut comprendre Aristote, c'est assez décevant parce qu'on voit que c'est le théologien qui commente Aristote pour lui dire. Et alors, comme Aristote ne dit pas phousikos, hein, vous voyez, il dit simplement ça. Parmi les choses qui sont en devenir, les choses qui sont en devenir, ça ne peut plus être un regard logikos. Alors qu'il est oublié de phousikos, parce que très souvent il met les deux. Il est tombé, ça arrive. Il est tombé, il n'a pas eu. Mais en réalité, c'est un nouveau regard, puisque c'est le devenir. De sorte que moi, je crois qu'on peut dire qu'il y a deux analyses pour distinguer l'ousia de l'aïdos, un regard phousikos, un regard logikos, un regard phousikos. Vous allez voir. Alors je dis c'est une interprétation parce que ce n'est pas celle de saint Thomas. C'est intéressant de bien comparer quand vous lisez le commentaire de saint Thomas sur Aristote et quand vous lisez Aristote, vous voyez que de fait, ce n'est pas toujours comme de bien saisir. Parmi les choses qui sont en devenir, les unes le sont par nature, d'autres par l'art, d'autres par l'effet du hasard. Distinction très très connue dans la philosophie de la nature. On est donc nettement au niveau phousikos. C'est pour ça que moi je mets ça, parce que ça éclaire. Ça nous aide à mieux comprendre les deux aspects, le logikos et le phousikos. Alors, vous voyez que là, vous êtes en face d'une distinction qui est en philosophie de la nature. C'est que le devenir, il existe au niveau physique. de la physis. Il existe au niveau de la technique de l'art, il existe au niveau du hasard. Par rapport à l'homme. Les bruits, vous entendez. Pour vous, c'est le hasard. Pas nécessairement, il fait ce bruit à cette heure-là. Vous voyez, les cris, vous entendez. C'est le hasard. Pour celui qui fait, c'est la technique. Ce n'est pas la nature. Et si vous entendez, je ne sais pas, si vous voyez une petite araignée marcher, elle a un devenir particulier, une génésis particulière, un devenir qui est par la nature. Donc, toujours, Aristote reprend toujours la distinction du devenir physique, le devenir artistique de l'art et le hasard. Mais toutes deviennent par quelque chose, à partir de quelque chose, et ce quelque chose, je l'entends, en fonction de chacune des catégories, qu'il s'agisse en effet du ceci, de la quantité, de la qualité et du lieu. Alors vous voyez que les catégories sont encore présentes, vous voyez, comme dans le livre, les états, les catégories sont tout le temps présentes. Au niveau logico, c'est très net, substance première, substance seconde, et puis la qualité, c'est très net. Et ici au niveau du dire, il le rappelle. Ça c'est très intéressant à voir. Alors, on fait tout simplement l'analyse du devenir. L'analyse du devenir, chose bien connue. Hein. La physique est connue quand je fais de la métaphysique. Hein. La physique est connue, c'est évident. Donc, je peux très bien ne faire que des rappels de la philosophie de la nature. Dans la philosophie de la nature, je vois ces trois espèces de devenir. Et quand j'analyse le devenir, toutes deviennent, toute réalité qui devient par quelque chose, la cause efficiente. À partir de quelque chose, la matière. Quelque chose, le terme. Tout simplement, vous analysez le devenir artistique, ben, il y a l'artiste, il y a la matière, et puis il y a l'œuvre. Quand vous regardez une œuvre naturelle, vous pouvez regarder cette réalité au terme, elle est dangereuse. Elle provient d'autre chose, et il y a quelque chose de présupposé, la matière. Alors, et je l'entends en fonction de chacune des catégories, donc le quelque chose, en fonction de chacune des catégories, parce que l'œuvre, c'est dans le point de vue de la qualité, le point de vue de la nature, c'est une nouvelle nature. De la génération, c'est une nouvelle substance. Je peux dire qu'on a grandi, c'est la quantité. Le mouvement de croissance, c'est la quantité. Vous avez changé de lieu, vous avez changé de temps, et ainsi de suite. Les catégories interviennent toujours dans l'ordre du monde. Et ça, c'est très intéressant comme petite remarque. Ça montre que les catégories sont premièrement saisies au niveau du devenir. Une petite remarque dont on ne fait pas assez attention à ça. Les catégories ne sont pas au niveau de l'être, elles sont au niveau du devenir. Les générations dites naturelles sont celles-là même dont la génération se fait à partir de la nature. C'est l'araignée, hein, la sexualité de l'araignée. Ça, c'est tout à fait une génération naturelle. Alors, à partir de l'araignée. Et ce à partir de quoi se fait la génération, nous l'appelons matière. Ce par quoi il y a génération est une de ces choses étant par la nature. Ce qui est le produit de la génération est un homme, une plante ou quelque autre chose de cette sorte. Et ce sont ces choses que nous disons principalement être des substances. Ça, c'est très intéressant, c'est le passage de la physis à l'ousia. Toujours, Aristote revient à la physis pour mieux comprendre ce que c'est que l'ousia. Parce qu'il comprend mieux la physis que l'ousia. Nous comprenons mieux la physis que l'ousia. La physis, nous comprenons ça facilement, ce que c'est que la nature. c'est l'expérience première qui nous est donnée. Alors, on sait de l'ousia, on sait de la nature pour mieux comprendre ce que c'est que la substance. Toujours, on prend le plus connu qu'on ose pour connaître ce qui est premier selon l'ordre de perfection. Et ça, c'est la méthode d'Aristote. C'est une méthode dont il faut servir si on veut comprendre quelque chose. On sait de ce qui est déjà connu pour aller plus loin. On connaît la philosophie de la nature, on connaît bien ce que c'est que la phusis. Eh bien, on va faire appel à la phusis. Oui, raison de plus pour dire qu'on est au niveau phusis. Là, c'est clair, c'est explicite. On est bien au niveau phusis. Un raisonnement comme celui-là n'est pas du tout un raisonnement logicos. C'est un raisonnement tout à fait au niveau physique. Donc, je reprends pour que vous voyez bien. Les générations dites naturelles sont celles-là même dont la génération se fait à partir de la nature. Et ce à partir de quoi se fait la génération, nous l'appelons matière. Ce par quoi il y a génération est une de ces choses étant par nature. Ce qui est le produit de la génération est un homme, une plante ou quelque autre chose de cette sorte. Et ce sont ces choses que nous disons principalement être des substances. Toutes les choses qui deviennent par la nature ou par l'art possèdent une matière. En effet, chacune d'elles a la capacité d'être ou de ne pas être. Et cela, c'est la matière qui se trouve en chacune. D'une manière générale, ce à partir de quoi se fait la génération est nature. Selon quoi elle se fait, aussi nature. En effet, ce qui devient possède une nature, comme la plante ou l'animal. Et ce par quoi elle se fait est la nature, dite selon la forme, et d'une forme identique. Mais celle-ci est dans un autre, en effet, un homme engendre un homme. Alors vous voyez que le mot forme réapparaît ici. On ne se sert plus de la fluidité. On est dans l'opposition ousia et forme. Alors si on l'a oublié, on ne comprend pas du tout. C'est ça qui intéresse Aristote. La fluidité a été uniquement employée au niveau logikos. Donc au niveau critique. C'est là où la fluidité apparaît. Dans un regard critique. Tandis que dès que je ne suis plus dans un regard critique et que je suis dans un regard physikos, donc un regard physique, où j'essaie de comprendre la réalité telle que. Alors, immédiatement, on retrouve forme.
Mais si c'est Morphée, quel est le lien entre Morphée
et Eidos?
Quel est le lien entre Morphée et Eidos?
C'est que Eidos, c'est le langage platonicien. Morphée, pas platonicien.
C'est la même règle.
Le langage du premier physicien.
C'est le même concept.
Pour Aristote, la Morphée, c'est-à-dire la nature forme, la nature forme, c'est la Morphée. C'est l'aspect de la détermination de la réalité. Vous êtes un homme. Enfin, c'est la morphée. C'est par l'art que vous êtes homme. C'est par telle forme particulière que l'araignée est cet animal particulier. La détermination. Alors, c'est la nature-forme. L'eidos dit beaucoup plus le point de vue de l'intelligibilité. Je suis capable de saisir. Oui. C'est pour ça que vous pourrez dire que l'aïdos peut être séparé, je mets la morphée. La morphée est toujours relative à la matière. Tandis que l'aïdos ne dit pas nécessairement regard à la matière. Je ne dirais pas que Dieu est morphée. Dieu est forme. L'aïdos. Pour appliquer l'aïdos à Dieu.
Mais c'est la qualité, est-ce qu'il y a une différence?
Ah oui, il y a une différence, c'est la différence que je disais tout à l'heure entre la forme et la qualité. L'eidos ne dit que le point de vue de la détermination intelligible. Et la qualité implique un ordre à la fin.
Pourquoi l'ancien P.O. au niveau physikos, il n'utilise pas la morphée? Il ne dit pas l'eidos plutôt que morphée.
Ce n'est pas tellement d'importance. Parce qu'en fait, il veut mettre en lumière le point de vue de la forme. Il veut mettre en lumière. C'est C'est ça. C'est ça, je crois. Parce qu'on est nettement, quand vous regardez, c'est nettement une niveau physique. Ainsi donc, les choses en devenir deviennent à cause de la nature. Et les autres générations sont appelées des réalisations. Des réalisations, parce qu'il s'agit de l'art. Toutes les réalisations proviennent d'un art, d'un pouvoir ou d'une pensée. Certaines parmi elles proviennent aussi du hasard, automatos, et de la fortune. Presque de la même façon que pour les choses qui deviennent par la nature. Car certaines choses, là aussi, tout en étant semblables, naissent ou d'une semence ou sans semence. N'oubliez pas la génération spontanée. Les tétards, hein, la génération spontanée. C'est pour ça qu'il dit sans semence. Il y aura des animaux qui apparaissent sans semence, sans qu'on ait vu la semence. Mais, alors, c'est la fameuse cas qui a été jusque Albert le Grand. Albert le Grand prend le point de vue des générations spontanées. Comment se fait-il que de la boue naissent des tétards? Génération spontanée, grâce au soleil. Hein? L'homme est engendré par l'homme et le soleil. Les astres ont un rôle très important puisqu'il y a des générations qui apparaissent sans semences grâce au soleil. C'est très amusant de voir ça dans Albert le Grand, la manière dont il explique l'apparition des tétards. Ça, c'est de l'Albert le Grand, c'est du phénomène, hein. C'est la génération sans spontanée. C'est pour ça qu'il dit d'une semence ou sans semence. Alors, vous avez cassé la tête, sans semence. Il faudra donc, et alors dans l'art aussi, une génération spontanée, vous voyez, sans le vouloir, j'ai fait un chef-d'œuvre. Génération spontanée. Vous mettez un pinceau au bout de la colonne d'un âne, et vous faites un mot. Génération spontanée. Il faudra donc examiner plus tard ce qui concerne ces choses. Quant à celles qui proviennent d'un âme, leur idée se trouve dans l'âme. J'appelle donc idée la quidité de chaque chose et la substance première. Très très juste. Nous sommes du côté artistique. C'est très astucieux de la part de Tycho qui l'envoie à Platon. C'est dit admirablement. Quant à celles qui proviennent d'un art, leur idée se trouve dans l'âme. Le point de départ de l'œuvre artistique, c'est l'idée. L'idée, elle se trouve dans l'âme de l'artiste. Elle se trouve dans la connaissance de l'artiste. J'appelle l'idée la quidité de chaque chose et la substance première. Au niveau de la connaissance artistique, la substance, c'est l'idée. Platon avait raison. Au niveau de la connaissance artistique, oui, Aristote veut montrer tout simplement, Platon a confondu la connaissance artistique et la connaissance tout court. Il a confondu la connaissance artistique et la connaissance métaphysique. Si la connaissance artistique était la connaissance métaphysique, l'eidos, l'idée, serait la substance. Très belle analogie pour nous, pour essayer de comprendre ce que c'est que la substance. Oui. Puisque la connaissance artistique, normalement, doit être quelque chose de plus connu pour nous que la connaissance métaphysique. C'est pour ça qu'Aristote se sert tout le temps à la fois de la physique et de l'art. Parce que c'est des connaissances plus immédiatement connues pour nous, pour nous élever jusqu'à la connaissance métaphysique. C'est pour ça qu'on peut appeler la métaphysique aussi bien métatechné que métaphousis. C'est une méta, elle est au-delà, elle dépasse. ou l'état hasard. En effet, la forme des contraires est d'une certaine manière la même, car la substance de la privation est la substance de son opposé. Par exemple, la santé, c'est encore un art, hein, la médecine, on pourra dire ça, on ne peut pas l'oublier, c'est un art. Pas encore une science, c'est un art. La santé, celle de la maladie, car c'est par l'absence de celle-là que se produit la maladie. Tandis que la santé, c'est la notion qui est dans l'âme et est objet de la science. La santé naît comme suit dans une âme qui pense, puisque c'est cela la santé, il est nécessaire. Si l'on veut obtenir la santé, que cela soit réalisé. Par exemple, un équilibre, une harmonie, des humeurs. Hein. Et pour cela, que soit produit de la chaleur. La chaleur est nécessaire pour la santé. Or, c'est toujours ainsi qu'on pense, jusqu'à ce qu'on parvienne à quelque chose que l'on puisse finalement produire soi-même. C'est alors que le mouvement provenant de celui qui a ainsi pensé s'appelle réalisation. Tant que vous êtes en face de quelque chose sur lequel vous n'avez pas possibilité d'agir, vous n'êtes pas dans la réalisation. Il faut toucher l'ultime moment sur lequel vous êtes et à partir de là déclencher une réalisation. Ça, c'est vraiment l'artiste. Hein. L'artiste qui veut modifier, remettre un équilibre là où il n'est pas. Alors, il faut saisir ce déséquilibre, il faut avoir le concept de la santé, vous voyez, il n'y a pas de concept de la maladie.